Radio France Internationale, 5h à Paris et à Bruxelles, il est 4h en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et à la une, le sommet européen de Bruxelles où les 27 s'entendent pour renforcer leur défense.
Ils ont donné leur feu vert à un plan de réarmement de 800 milliards d'euros alors que les États-Unis prennent de plus en plus leur distance dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le président américain prend aussi ses distances de l'OTAN. Il a une nouvelle fois remis en cause l'engagement de son pays dans l'alliance transatlantique. La CEDEAO croit encore à la réintégration du Mali, du Burkina et du Niger. Le Ghanéen John Dramani Mahama va tenter de les convaincre un peu plus d'un mois après leur retrait effectif. Et puis les scientifiques manifestent aujourd'hui un peu partout dans le monde pour protéger l'accès aux sciences, tout cela face aux attaques de l'administration Trump sur le secteur de la recherche. L'Union européenne va donc muscler sa défense. Décision prise lors d'un sommet à Bruxelles hier dans le contexte de la guerre en Ukraine et alors que les États-Unis prennent leur distance de Kiev et des Européens. Dans une déclaration finale, les Européens ont promis de poursuivre leur aide à l'Ukraine. Déclaration à 26, la Hongrie s'est abstenue, mais c'est à 27 en revanche qu'ils ont validé ce plan pour renforcer leur défense. Anastasia Becchio est notre envoyée spéciale à Bruxelles.
Des progrès décisifs vers une Europe forte de la défense. Voilà comment l'initiateur de ce sommet, le président du Conseil, Antonio Costa, a salué l'engagement pris par les 27. Mis au pied du mur, inquiet d'être lâché par les États-Unis, les dirigeants européens entendent avancer. Ils ont invité la Commission européenne à explorer de nouveaux moyens de faciliter l'accroissement des dépenses de défense dans tous les États membres. Pour Emmanuel Macron, il s'agit là d'un sursaut qui n'est qu'une étape.
Compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Je me félicite des choix qui ont été faits aujourd'hui, mais aussi un très large consensus qui a émergé de nos échanges et qui marque à mes yeux une grande lucidité des Européens et un réveil stratégique profond.
Le président français a par ailleurs confié qu'il avait été approché par plusieurs dirigeants à Bruxelles au sujet de son offre d'élargir à l'Europe le parapluie nucléaire de la France. Une idée qui vaut la peine d'être étudiée, selon Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Une idée très intéressante, selon le président lituanien Gitanas Nauseda, mais une idée qualifiée aussi de prématurée par les dirigeants lettons et tchèques. L'Allemand Olaf Scholz a lui souligné qu'il était important de ne pas abandonner la protection militaire américaine. Anastasia Becchio, Bruxelles, RFI.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en Arabie Saoudite mardi où il s'entretiendra avec l'émissaire américain Steve Witkoff pour discuter d'un cadre de paix. Les chefs d'état-major des 27 se réuniront mardi à Paris en présence d'Emmanuel Macron pour une réunion sur l'Ukraine, plus précisément pour préparer un éventuel déploiement de forces européennes dans le cadre d'un futur accord de paix avec la Russie. Les initiatives s'enchaînent donc pour envisager la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Au-delà des Européens ou des Américains, d'autres pays comme le Canada ou même la Turquie auraient proposé de prêter leurs forces. Le soutien de ces pays tiers n'a rien d'étonnant pour Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po Paris.
L'avenir de cette sécurité ne dépendra pas probablement des institutions européennes, mais plutôt des Européens eux-mêmes, des États membres qui souhaiteront aller plus loin. Et dans ce cadre-là, rien n'empêche de pouvoir disposer du soutien à la fois des Britanniques, des Turcs, des Canadiens et d'autres États qui pourraient en quelque sorte contribuer à la défense du continent européen. La Turquie, dans le cadre actuel, a un rôle tout à fait particulier. Les Turcs ont été d'efficaces médiateurs dans les premiers mois du conflit et l'accord de mars 2022 de négociation russo-ukrainien avait été négocié par la partie turque. De même, on a pu observer que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, peut parler aussi bien aux Ukrainiens, auxquels il a confié un certain nombre de drones, qu'à la présidence russe. De ce point de vue-là, le ralliement de la Turquie à cette résolution de la crise, aux éléments de négociation, pour les Européens peut être une énorme opportunité, de même que ça peut être une opportunité pour la Turquie de se rapprocher des Européens, tout simplement pour ancrer son développement et essayer de rehausser son statut diplomatique.
Florent Parmentier du Centre de recherche politique de Sciences Po Paris au micro d'Abla Jounaïdi. Alors que les Européens, on l'a vu, lancent leur réarmement aux États-Unis, Donald Trump met une nouvelle fois en doute son engagement et même sa confiance dans l'OTAN. Le président américain a redit hier qu'il ne défendrait pas les pays de l'OTAN qui ne paieraient pas assez pour leur défense.
It's common sense, right? C'est du bon sens, n'est-ce pas? S'ils ne payent pas, je ne vais pas les défendre. Non, je ne vais pas les défendre. J'ai été très critiqué quand j'ai dit ça. On m'a dit, ah, ils violent le traité. Vous savez, le plus gros problème que j'ai avec l'OTAN, je les connais bien, ce sont des amis, mais si les États-Unis étaient en difficulté et que nous les appelions à l'aide en leur disant, on a un problème. Si nous disons à la France ou à d'autres que je ne nommerai pas, on a un problème, est-ce que vous pensez qu'ils viendront nous protéger? Ils sont censés le faire, mais je n'en suis pas sûr.
Et nous sommes des alliés loyaux et fidèles, lui a ensuite répondu dans la soirée le président français Emmanuel Macron. Le président américain recule en revanche dans la guerre commerciale qu'il a lancée avec ses voisins. Il a suspendu l'essentiel des droits de douane contre le Mexique et le Canada, suspension de 30 jours dans le cadre de négociations en cours entre ces pays. Le Canada, qui avait riposté en imposant lui aussi des taxes douanières, les suspend en échange. En revanche, la Chine est toujours concernée par ces droits de douane américains. Ils ont même été alourdis il y a quelques jours. Et ce matin, Pékin promet une nouvelle fois de riposter. RFI 4h06 en temps universel. Dans l'actualité également, cette optimisme affiché de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour un retour du Mali, du Burkina Faso et du Niger au sein de la CDAO. Hier, depuis Abidjan, les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont lancé un appel aux États de l'AES pour qu'ils réintègrent l'instance sous-régionale. Alors que la position des trois États du Sahel est ferme, il refuse toute idée de réintégration. Le chef d'État ivoirien compte visiblement sur son homologue ghanéen pour les convaincre et engager un nouveau processus, Guillaume Thibault.
Ce processus diplomatique de médiation a été enclenché par John Dramani Mahama dès sa réélection en fin d'année. En février, tout juste nommé, son ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, déclarait « Le président Mahama mène la charge pour garantir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso reviennent dans le giron de la CDAO. Je ne doute pas que, compte tenu de son expérience diplomatique, il réussira. » Et dimanche dernier, nouvelle étape, le chef de l'État a reçu à Accra une délégation de la CDAO menée par le président de la commission, Aliou Touré. Dans le communiqué publié, l'organisation indique « Le président Mahama a annoncé la nomination d'un envoyé spécial du Ghana chargé d'œuvrer à la réintégration des pays de l'AES. » Une formule diplomatique qui semble indiquer que la CDAO adhère, valide cette démarche individuelle du chef de l'État du Ghana. Car l'instance sous-régionale soutient dans le même temps la mission de médiation qu'elle a engagée l'an dernier, mission dirigée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Critique de la méthode, dure notamment des sanctions économiques, John Dramani Mahama, qui prône des relations respectueuses et constructives, avait annoncé en début d'année des déplacements dans les capitales de l'AES. Il est attendu dimanche à Niamey.
Guillaume Thibault. En Syrie, plus de 70 morts dans des affrontements dans le nord-ouest, chiffre donné par l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces combats opposent des membres des forces de sécurité et des militants pro-Bachar al-Assad, le président déchu. Il s'agirait des affrontements les plus violents depuis sa chute en décembre dernier. À Mayotte, à présent, les conséquences de la fermeture du bureau des étrangers à la préfecture. Ce bureau est fermé depuis plus de 3 mois, bloqué d'abord par un collectif de citoyens hostiles à l'immigration, puis depuis le cyclone Chido, il n'a jamais rouvert. Résultat, des habitants se retrouvent en situation irrégulière car ils ne peuvent pas s'y rendre pour renouveler leurs papiers. Beaucoup renoncent donc à sortir de chez eux, de peur de se faire arrêter par la police et expulser. Sur place, Lisa Morisseau a rencontré une femme qui attend ses papiers depuis plus d'un an.
Arrivée à Mayotte en 2022, Déborah fuit le Burundi avec ses enfants. Le 22 janvier 2024, la préfecture de Mayotte reconnaît dans un courrier son statut de réfugié et lui accorde une carte de résident pour 10 ans. Mais un an et 3 mois plus tard, la Burundaise l'attend toujours. Sans ce document, elle est bloquée, un retard lié à la fermeture du bureau des étrangers.
Je suis allée à la CAF pour recevoir des allocations pour mes enfants, mais on m'a demandé mon compte bancaire. Mais sans carte de résident, je ne peux pas avoir de compte bancaire. Je ne peux pas non plus avoir de travail. Sans ce papier, je ne peux rien faire.
Cette administration était fermée une grande partie de l'année 2024. Pour Hugues Bourrien, avocat en droit des étrangers au barreau de Mayotte, cette fermeture représente une atteinte au droit.
Depuis un peu moins d'un an et demi, la préfecture, grosso modo, a été ouverte un quart du temps, en tout cas le bureau des étrangers. Et c'est véritablement problématique, parce que on expulse des personnes qui sont en situation irrégulière, mais on les empêche de pouvoir régulariser leur situation. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
Malgré l'impossibilité de se rendre à l'administration, les contrôles de la police aux frontières continuent. Contactée, la préfecture de Mayotte n'a pas répondu à nos questions. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Le reportage de Lisa Morisseau, Stand Up for Science, debout pour les sciences. C'est le mot d'ordre de manifestations organisées un peu partout à travers les États-Unis et même ailleurs dans le monde. Des manifestations pour s'opposer aux attaques de la nouvelle administration Trump qui coupe le robinet dans de nombreux secteurs publics. Et ça touche notamment la recherche. Des centaines d'experts de l'Agence nationale d'observation océanique et atmosphérique ont été licenciés. Des programmes arrêtés comme la mesure de qualité de l'air. On peut aussi citer la suppression de données de sites internet fédéraux. Lourdes Ferra, sociologue à l'université de Buffalo, témoigne.
We track the websites.
Nous suivons les sites internet qui ont été supprimés, ce qui touche à la science du climat, au changement climatique, et ensuite à la justice environnementale a été supprimée. Mais je crois qu'à peu près 1 million de pages internet fédérales sur l'environnement ont été archivées. En revanche, pour les bases de données, je ne suis pas sûre. Dans mon groupe, par exemple, on travaille en particulier sur la surveillance de la mise en application des projets environnementaux, et nous avons déjà archivé l'historique des documents de conformité. Mais quelque chose qui me passionne personnellement, ce sont les outils que le gouvernement offrait auparavant et qui ont été supprimés. Donc ce n'est pas qu'une question de disponibilité des données, mais d'accessibilité à ces données.
Lourdes Vera, sociologue à l'université de Buffalo, elle répondait aux questions de Raphaël Moran, de la rédaction en espagnol de RFI. Et puis toujours aux États-Unis, le président reçoit aujourd'hui plusieurs grands acteurs des crypto-monnaies, une industrie qui a largement contribué au financement de sa campagne. Donald Trump a d'ailleurs acté la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, mais cette annonce n'a pas vraiment eu l'effet escompté puisque cette monnaie, le Bitcoin, a chuté ensuite de plus de 5%. RFI 5h12 à Paris, 4h12 en temps universel. On reste ensemble pour un tour de l'actualité internationale avec nos chroniques et nos reportages.
Marion Kazanov.
On sera d'abord à Naplouse, en Cisjordanie occupée. La ville craint d'être la cible de l'armée israélienne, qui a déjà vidé de ses habitants des quartiers entiers de Jenin ou de Toulkarem dans le cadre d'une offensive d'ampleur lancée donc par cette armée juste après le cessez-le-feu à Gaza. On ira ensuite en Grèce où le gouvernement est visé par une motion de censure aujourd'hui. Plusieurs partis dénoncent l'incompétence du pouvoir, notamment dans le drame ferroviaire qui a endeuillé le pays il y a 2 ans et dont l'enquête avance ces dernières semaines. On appellera notre correspondante à Athènes. L'invité culture de RFI ce matin est le photographe Lam Dukien qui présente son livre de clichés « Kurdistan, mon ami », 30 ans de photos dans cette région d'Irak devenue une part de sa vie. On fera ensuite un tour dans la playlist musicale de RFI comme tous les jours. Tout cela avant le retour de l'actualité africaine. Alors que le sort de Gaza est discuté dans le monde entier, l'armée israélienne poursuit une opération d'ampleur en Cisjordanie occupée. Plus de 40 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer, en particulier dans la ville de Jenin, considérée comme un bastion de la lutte armée palestinienne. Non loin, la ville de Naplouse, poumon économique de la Cisjordanie, craint d'être la prochaine cible des chars israéliens. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Julien Boileau.
Depuis quelques jours, le camp de réfugiés de Balata a une nouvelle habitante. Sahara Abel est arrivée avec ses 4 enfants d'un camp de Toulkarem.
Notre maison a été la première ciblée. Les soldats israéliens nous ont demandé de partir, mais nous avons tout de même choisi de rester pour les enfants. Ils nous ont envoyé des drones. Nous sommes restés jusqu'à vendredi dernier. Ils tiraient dans tous les sens. Ils se fichaient des enfants. Ils ont forcé mon mari à rester dehors. Ils sont entrés dans ma chambre alors que j'avais mon fils asthmatique dans les bras. Il a besoin d'un inhalateur. Ils m'ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire. Ils ont compté 5, 4, 3, 2, 1, dehors, dehors.
Le camp de Nour Shams était habité par des familles réfugiées en Cisjordanie lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Sahrab est partie dans un autre camp, chez sa sœur, à Balata, dans la banlieue de Naplouse. Mais ici aussi, l'armée israélienne multiplie les raids.
Les soldats israéliens peuvent arriver à tout moment. Soudain, ils sont là, face à vous. Mes enfants sont terrifiés. Avant, c'était des moulins à paroles. Maintenant, il y a une vibration étrange dans leur voix. Ils sont tout pâles. Je sais que rien n'est impossible pour l'occupation israélienne. Je suis partie du camp de Nour Shams et je me prépare à revivre la même expérience à Balata.
Entre deux raids, le camp de Balata fourmille de vie. Assis sur un muret, entre deux amis, un vieil homme observe les enfants qui jouent dans la rue.
Ici, il n'y a pas une maison qui n'est pas un martyr. Est-ce que l'occupation israélienne arrivera à empêcher ces enfants de résister ? Nous les mettons au monde pour ça et nous leur parlons pour qu'ils n'oublient pas.
Ne pas oublier le droit au retour sur les terres que ces familles ont été forcées de quitter il y a plus de 70 ans. C'est ce souvenir qui fait des camps les foyers des groupes armés palestiniens, des terroristes pour Israël. Mais aujourd'hui, le gouverneur de la province, Hassan Dakhlas, affirme que l'autorité palestinienne et l'armée israélienne ont eu raison de la lutte armée à Naplouse.
Malgré tout, la ville est assiégée. Il y a un barrage à chaque entrée de la ville, pareil dans les villages. Il y a aussi de nombreuses attaques de colons israéliens. L'autorité palestinienne ne pourra rien faire s'il y a une offensive d'ampleur sur les quatre camps de réfugiés de la banlieue. Toute la ville est fermée. Où iront les gens ?
L'annexion de la Cisjordanie est discutée jusqu'à Washington, grand allié d'Israël. En septembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a pourtant donné un an à Israël pour mettre fin à sa présence illicite sur le territoire palestinien occupé. Julien Boileau, Oriane Verdier, Naplouse, RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site RFI.fr ou bien sur notre application Pure Radio. La Grèce a commémoré il y a quelques jours les 2 ans de la plus grande catastrophe ferroviaire de son histoire. Le 28 février 2023, 57 personnes sont mortes dans la collision de 2 trains. Récemment, l'enquête a avancé, de nouveaux éléments ont été apportés, ce qui relance une forte mobilisation populaire. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans le pays mercredi. On retrouve à Athènes notre correspondante Nadia Blétry. Nadia, aujourd'hui encore, il devrait y avoir une importante mobilisation. L'affaire prend un tour politique.
Oui, mercredi, 4 partis d'opposition ont déposé une motion de censure contre le gouvernement conservateur. Donc 85 députés au total. Alors cette motion de censure est notamment menée par le PASOK, le Parti Socialiste Grec et principal parti d'opposition aujourd'hui. Et les mots de son dirigeant sont particulièrement durs contre le gouvernement. Il dénonce, je cite, donc son incompétence criminelle. Le vote de cette motion de censure aura lieu ce vendredi, mais elle n'a aucune chance d'aboutir dans un parlement où le parti au pouvoir a une majorité absolue. Le Premier ministre, lui, accuse l'opposition de vouloir déstabiliser le pays. Et il faut rappeler que l'année dernière, une motion de censure avait déjà été déposée pour les mêmes raisons au Parlement. Cette année, c'est vrai qu'elle survient dans le contexte d'une très forte mobilisation sociale.
La mobilisation populaire est d'ailleurs très large et au-delà des clivages politiques. Nadia, pourquoi les appels à manifester sont-ils aussi suivis ?
C'est sans doute lié au fait que l'accident de Tempi cristallise de nombreux maux du pays. Tout d'abord la défaillance des services publics, mais aussi le résultat de privatisation que les citoyens grecs considèrent comme une course effrénée au profit. Mais cet accident soulève aussi beaucoup de questions autour de fonds européens qui auraient dû servir à sécuriser le rail dans des projets qui en fait n'ont pas vu le jour. Et puis il faut rappeler aussi que l'accident de Tempi, qui a coûté la vie à 57 personnes, a surtout tué des étudiants et que l'opinion a été bouleversée que sa jeunesse, l'avenir du pays donc, soit tuée dans un accident aussi tragique, alors même que les cheminots alertaient depuis des mois le gouvernement des failles de sécurité.
On sent d'ailleurs en Grèce une défiance grandissante à l'égard du pouvoir politique et l'accident ferroviaire de Tempi en est le signe, Nadia ?
Oui, tout à fait. Les familles des victimes de Tempi le clament d'ailleurs haut et fort. Assez vite après l'accident, elles ont dénoncé des irrégularités dans l'enquête et elles ont eu le sentiment de beaucoup de dissimulation de la part des autorités. Elles ne comprennent notamment pas pourquoi la scène de l'accident a été immédiatement nettoyée au détriment des preuves. L'année dernière, elles ont d'ailleurs lancé une pétition pour demander la levée de l'immunité de certains ministres. Une pétition qui avait récolté près d'1,5 million de signatures à l'époque et c'est conséquent quand on sait que le pays compte un peu plus de 10 millions d'habitants. Alors l'un des principaux mots d'ordre des manifestations aujourd'hui d'ailleurs, c'est de demander des comptes aux autorités pour la version la plus édulcorée quand une partie de l'opinion plus en colère, elle, appelle à la démission.
Nadia Blétry, correspondante de RFI à Athènes. L'invité culture de RFI ce matin est le photographe Lam Dukian qui publie ses clichés du Kurdistan irakien. 30 ans de photos à travers un livre publié récemment. En noir et blanc, il nous fait découvrir les paysages, les habitants de cette région, des scènes de vie quotidienne et parfois aussi historiques. Lam Dukian feuillette ce livre « Kurdistan, mon ami » avec Isabelle Chenu.
Lam Dukian, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Kurdistan, mon ami », 30 ans de photographie dans un pays qui vous a marqué plus que les autres, qui est l'Irak, et en particulier le Kurdistan irakien.
La rencontre s'est faite par hasard parce que j'étais parti dans un cadre de mission humanitaire, mars 91. Il y avait des Kurdes qui étaient massacrés par Saddam Hussein. L'accès difficile dans les montagnes, il faisait froid, il y avait de la neige. J'avais mon appareil photo avec moi parce qu'à l'époque, j'étais étudiant des Beaux-Arts et j'adorais la photo. Et c'était pour montrer aux gens la situation. Et après, comment on pouvait aider?
Un hasard, mais qui va quand même marquer votre vie professionnelle de photographe puisque vous allez être photographe à l'agence Vue. Qu'est-ce qui vous marque dans ce pays?
Le Kurdistan irakien, il m'a vraiment marqué, vraiment dans la chair. J'avais eu un accident, j'ai failli mourir et c'est un ami kurde qui m'avait sauvé la vie en faisant appel, en allant chercher l'armée française pour venir me sauver avec 3 hélicoptères en dehors de la zone de sécurité. Et cet ami-là que j'ai retrouvé 30 ans après, c'est comme si on ne s'est jamais quitté. Et je me rappelle vraiment la première fois en contact avec des Kurdes, j'avais toute la culture littéraire déjà sur les mille et une nuits. Et quand j'ai rencontré les Kurdes, j'ai l'impression que j'étais vraiment baigné dans les livres que je lisais. Quelque part, j'ai déjà vécu dans la guerre avant de venir en France. Donc du coup, j'ai l'impression de retrouver des émotions de ce que j'avais vécu petit, mais sans avoir mis les mots et des images sur les sensations que j'avais.
Parce que Lam Dukian, vous êtes franco-laotien, vous êtes né au Laos, votre père est vietnamien, et vous avez dû fuir le Laos jusqu'en Thaïlande, et ensuite rejoindre la France, vous aviez 11 ans, donc évidemment ce parcours a marqué votre enfance et votre vie, et d'une certaine manière, témoigner en photo de ces populations kurdes irakiens qui étaient bombardées par Saddam Hussein, ça a rejoint un peu votre propre histoire.
Exactement. Je voulais raconter mon histoire, mais au lieu de toujours se lamenter sur soi-même, sur ce qu'on a vécu, je voulais faire quelque chose de positif, c'est-à-dire aller aider des gens concrètement et raconter leur histoire. Raconter leur histoire, c'est raconter mon histoire. On se rejoint quelque part dans l'exil, dans la guerre, il y a toujours quelque chose de dramatique et quelque chose de commun.
Ce que vous avez fait aussi comme travail, Lam Dukian, c'est que vous avez voulu, 10 ans plus tard, enfin des années plus tard, retrouver les visages, les personnes que vous aviez photographiées au Kurdistan irakien. Qu'étaient-ils devenus? Est-ce qu'ils étaient toujours vivants?
Je voulais témoigner non seulement un pays qui a survécu, mais aussi sur une forme de résilience kurde. C'est un grand peuple sans patrie, sans pays. Ils vivent dans cet espoir-là. Dans ce livre, je voulais mettre plein d'histoires des gens que j'ai rencontrés. Et depuis 91 jusqu'aujourd'hui, j'y raconte des petites histoires qui s'assemblent ensemble et ça raconte un peu l'évolution de cette région-là.
Merci beaucoup, Lam Dukian. Donc, votre livre est disponible aux éditions Odyssée et il s'appelle « Kurdistan, mon ami ». C'est un livre bilingue en français et en kurde irakien.
Oui, traduit par Bayan Salman, une romancière.
Merci beaucoup.
Kurdistan, mon ami, donc ce livre du photographe Lam Dukian, livre publié aux éditions Odyssée, l'invité culture avec Isabelle Chenu. À 9h10, temps universel sur RFI, vous retrouverez Caroline Paré dans Priorité Santé, émission délocalisée aujourd'hui en Casamance.
L'équipe de Priorité Santé vous retrouve pour la dernière de nos 3 émissions spéciales au Sénégal. Et en Casamance, c'est à l'hôpital régional de Ziguinchor que nous allons parler de l'accès aux soins de qualité. Et ce renforcement, il passe par la mise à disposition des soignants et des patients des médicaments essentiels. Une liste établie par l'OMS sur laquelle on retrouve, alors que l'on n'y pense pas forcément, l'oxygène médical. Pour le produire, la centrale à oxygène est indispensable pour prendre en charge certaines certaines complications pour les nouveau-nés, les femmes lors de l'accouchement ou des patients en détresse respiratoire. L'oxygène médical qui sauve des vies, comme nous l'explique le docteur Alphan Ndiaye, pédiatre et spécialiste santé pour l'UNICEF.
Comme l'OMS l'a dit, l'oxygène est un médicament essentiel, mais au-delà de ça, c'est un médicament qui permet de sauver des vies. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'équité des soins et dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, il est important que l'oxygène soit disponible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour pouvoir donner plus de chances à tous les enfants de survivre.
L'importance de l'oxygène médical, priorité santé à Ziguinchor. Et nous vous donnons rendez-vous avec nos reportages, des spécialistes, des acteurs en santé avec nous. Une émission réalisée par Victor Hull, préparée par Ophélie Lassène, à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure Caroline. Et avant, priorité santé à 8h10, temps universel, vous retrouverez Juan Gomez dans Appel sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est la libre antenne, comme tous les vendredis. Vous abordez les thèmes d'actualité qui ne font pas toujours la une des médias français et internationaux et vous nous appelez pour en parler au 33 9 693 693 70. Dans quelques minutes sur RFI, c'est le retour de l'actualité africaine. Avant cela, on fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute Des fleurs, un titre de Mira.
Pas d'after party, j'ai pris le VTC. Les autres sont partis en sucette. Je fais des parties, des chèques dans ma tête. Je prends pas souvent parti pour moi-même. J'aime bien la couleur de tes yeux dans le fond des miens. Quand y'a plus la douleur posée en travers du chemin. J'aime bien la couleur de ma peine au creux de ta peau. Quand on m'en fait des fleurs, que sur nos bouquets on se couche. Je connais pas la douleur. Elle me connaît bien. Je connais pas la douleur. Elle me connaît.
Son titre Des fleurs que vous retrouvez dans la playlist musicale du mois de RFI. 5h29 à Paris, dans une minute, le retour de l'actualité africaine.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent.
Concevoir un mode de vie qui ne produise pas de déchets, qui divise par 10 la consommation d'eau et qui n'émette pas plus de 2 tonnes de CO2 par an, c'est ce que Corentin de Châtel-Perron et Caroline Puz expérimentent dans un appartement en banlieue parisienne. Anne-Cécile Bras vous emmène à la découverte de ce laboratoire low-tech qui invente le futur.
C'est pas du vent.
avec Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Il semblerait que le brillant bluesman multi-instrumentiste Jerome Paxton ait vu le jour un siècle trop tard. Né en 1989, il s'est rapidement passionné pour le patrimoine de ses ancêtres. Brillant narrateur, il aime évoquer l'histoire de ses aïeux. Son dernier album, Things Don't Change, nous plonge dans les années 1920. Il nous le présente et revient sur son parcours au micro de Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires, samedi à 13h30 TU.
RFI.